Tout d'abord, je voudrais commencer par vous lire une citation de Dolores Lyotard, qui écrit dans son essai « Cruauté de l'intime » « La poétique de Barbey d'Aurevilly est une voyance du clair-obscur, mais qui fait étinceler ses chromes, rayonner d'ombre ses apparences. Elle appelle cette vue cambrée, empourpée et aveugle, qui capte l'éclat de la lumière en l'efforçant de son contre-jour, repousse l'œil à l'intérieur. » Donc, le rideau cramoisi est le produit de cet artifice qui consiste à faire parler quelqu'un. Ce quelqu'un est, en l'occurrence, un ancien militaire, le vicomte de Brassard. L'effet de son récit, le sien, remonte à 35 ans. Il était jeune. Il n'avait pas, proteste-t-il, 18 ans. Pour vous résumer assez rapidement l'histoire, la nouvelle porte en titre en fait le prétexte du récit même. C'est sous la fenêtre d'une demeure provinciale, dans une petite ville de Normandie, que la diligence dans laquelle voyagent le narrateur et le vicomte de Brassard s'arrête de nuit en raison d'un léger accident. C'est la même fenêtre sans persienne, au rideau cramoisi éclairé par une lumière tamisée, qui avait caché une étrange aventure de jeunesse du vicomte Brassard, comme on va l'apprendre par la suite du texte devenu confession du vicomte. Donc, jeune sous-officier de 17 ans, Brassard logeait dans cette maison chez un couple de bourgeois. Son seul intérêt était le métier des armes. La fille des hôtes, mademoiselle Albertine, rentre un jour de la pension. Les seules choses dont on parle à table reviennent à dire des politesses banales. Cependant, un soir, la main d'Albertine saisit celle de Brassard sous la table. Elle répète le geste plusieurs fois, jusqu'au jour où elle ne fait plus rien, ne donne plus aucun signe au jeune homme. Après des semaines de silence, elle surgit une nuit dans sa chambre et ils deviennent amants. Au cours d'une de leurs étreintes, elle expire dans les bras de Brassard. Affolée, celui-ci ne sait pas que faire avec le cadavre dans sa chambre, un corps inerte donc, qui dévoilerait leur affaire et mettrait son honneur en péril. Il finit par s'enfuir, demandant de l'aide à son colonel, qui l'envoie dans une autre ville. De nouveaux ordres l'emmènent dans un autre régiment. Il participe à des batailles. Le colonel qui devait lui envoyer des nouvelles meurt dans le combat et Brassard ne saura jamais ce qui était arrivé après son départ. À cette phrase prononcée par lui qui a amorcé sa confession, c'est singulier. On dirait que c'est toujours le même rideau. Répondent en écho les ultimes lignes de la nouvelle. « Tenez, me dit-il, voyez au rideau. L'ombre svelte d'une taille de femme venait d'y passer en s'y dessinant. L'ombre d'Albert, fit le capitaine. Le hasard est par trop moqueur ce soir. Le rideau avait déjà repris son carré vide, rouge et lumineux. La confession du vicomte, sans rien confesser donc, va sonner comme les éclats d'une mémoire vivace et ardente. C'est une femme ou un corps de femme, d'après son souvenir, qui va être évoqué. Fragment de mémoire, fragment de corps remémoré et exhumé. Discontinu du souvenir, fracas de conscience, passé décomposé, recomposé et éclat. Et corps éclaté, assemblage fragmenté. J'ai intitulé ma communication « Cette main que j'avais maintenant à travers la cervelle, chair possédée, chair cryptée, ou de l'étrangeté à la diaphanéisation signifiante du corps féminin » et j'aimerais m'expliquer justement sur ce titre à rallonge qui prend du souffle parce qu'il contient en germe l'essentiel de l'analyse que je voudrais vous proposer et qu'il me permet d'en annoncer les articulations. Je parlerai dans une première partie d'Albertine, à sa première apparition de ce qui est révélé d'elle, puis en deuxième partie de sa deuxième apparition, intrusion, de ce qui est saisi d'elle. Et je terminerai dans ma troisième partie par ce qu'est la signifiance du corps d'Albertine. Une progression dans la représentation du corps accompagne les moments d'apparition, de la dispersion somatique, du fragment, la main à travers la cervelle et la phrase est tirée donc du texte. On passe au corps dévoilé, possédé, mais crypté, c'est-à-dire énigmatique, chair indéchiffrable. Crypté aussi, c'est-à-dire fort clos, crypte de marbre cadavérique, sorte de rêve de pierre baudelairien, puis à l'ombre spectrale annoncée par une diaphanéisation latente et programmée. Je vais passer en revue, en fait, tout au long des deux premières parties, les données du texte qui vont servir de base à mon analyse. Donc, première partie, première apparition. Nous avons d'Albert d'abord une vision d'ensemble. Je cite. Elle déployait la taille superbe d'une danseuse. Elle se retourna, imprimant à sa nuque une torsion qui me fit voir son visage. Elle prit garde à moi, me fit l'honneur de me regarder avec des yeux noirs, très froids. mais on ne pouvait la remarquer que par l'air qu'elle avait et qui était singulier, car c'était une espèce d'air impassible, très difficile à caractériser, sauf qu'il signifie, je cite, « Tranquillement, pour moi, vous n'existez même pas. Elle est semblable à l'infante, à l'épagneule de Velázquez. » Et l'expression, enfin la comparaison est dans la nouvelle, en ce qui s'en dégage d'énigmatique et d'impénétrable. Cela semble donc se situer au-delà de la chair, mais ne manquera certainement pas de l'imprimer comme nous allons le voir, ce qui rendra le corps d'autant plus insaisissable. Au reste, Albert, et je cite, « habituellement silencieuse, et cela ne se démentit jamais en toutes circonstances. » Puis viennent les fragments du corps. La main d'Albert. La première chose qu'on peut dire connaître d'Albert est sa main. Non pas les deux mains, mais une. Au point où, dans son bouleversement, les yeux du jeune homme se mirent à chercher, je cite, « l'autre de ses deux mains, la sœur de cette main ». Non pas Albert, donc, la femme, et corrélativement la main de la femme, mais la main de la femme, mais la femme de la main. On verra plus tard ce que ce détachement veut dire. Le désir s'attache donc d'abord à un détail, c'est-à-dire à un fragment. La main, c'est une partie fragmentée du corps, mais c'est aussi un tout condensé, une synecdoque du corps fragmentaire. Il s'ajoute à cette main, je cite, « les lumières de la lampe qui tombent d'aplomb sur elle et qui lui allumaient des transparences roses ». Fin de la citation. Main faite de lumière, à l'incarnat insaisissable, traversé par la lueur d'une chandelle, et j'y reviendrai, « main attisante », nous dit encore le texte, mais quand même faite de chair tassée et, je cite, « un peu épaisse ». Tout cela me montait au cerveau, si logé pour y rester à jamais. Retenons cette expression que j'ai citée dans le titre de ma communication, cette main que j'avais maintenant à travers la cervelle. Cerveau versus cervelle, de l'anatomie à la matière. Main qui saisit davantage qu'elle n'est saisie, donc. Érotisée, c'est elle qui déclenche l'aventure amoureuse. Mais main inquiétante aussi, sorte de fragment qui s'autonomise, main qui s'insinue jusque dans la cervelle du vicomte, main phallus, invasive, obsessionnelle et pénétrante. Main qui viendra aussi énergétiquement sur la bouche de Brassard le soir où Albert pénètre dans sa chambre pour étouffer son cri d'effroi et de surprise. On est bien loin. Là, j'ai envie de dire, avec ce fragment de main déchaînée, de la main des blasons délicatement érotisée, de la main blanche qui se vante d'être fille d'un cygne, d'un ronsard pour Hélène, ou pour rester dans les mains du 19e siècle, de la main craintive de Madame de Rênal saisie par l'audace de Julien Sorel. La main d'Albert cristallise, semble-t-il, et non pas justement dans le sens purement amoureux de la cristallisation chez Stendhal, un saisissement autrement plus significatif. Le pied d'Albert, à présent. De Mademoiselle Albert, on retiendra aussi son pied. Je cite, « Nous avions besoin de nos mains pour dîner. Celle de Mademoiselle Albert quitta donc la mienne. Mais au moment où elle la quitta, son pied, aussi expressif que sa main, s'appuya avec le même aplomb, la même passion, la même souveraineté sur mon pied et y resta. » Ce pied fait-il partie d'Albertine ? En tout cas, il s'en détache, comme s'en détachera la main qu'il remplace, non seulement dans la besogne, mais dans la présence même du corps. Mais rien ne sert de fantasmer, car le vicomte, à chaque circonstance, y compris pendant la période d'un mois où il ne se passa rien, je cite, « se heurtait à la réalité ». Je restais maintenant, un peu après dîner, guettant si elle ne laissait pas tomber quelque chose que je pourrais ramasser et en les lui rendant, toucher sa main, cette main que j'avais maintenant à travers la cervelle. Il y aurait donc main et main. La main qu'on touche est la main immatérielle que Brassard se met à avoir à travers la cervelle et qu'il continue, vieux, au moment de son récit, d'avoir à travers la cervelle en la réactualisant par le souvenir. Mais déjà la deuxième apparition s'imposa à lui. Elle prendra corps comme une intrusion, la main physique de la peur et la main de la mort. Je cite, « Que fallait-il faire ? À cette pensée, je sentis la main physique de cette peur hideuse dans mes cheveux qui devinrent des aiguilles. » Fin de citation. J'en viens à présent à la deuxième apparition. D'abord la vision. Suite à l'indifférence prolongée d'Albertine, et alors qu'il tentait d'opposer, je cite, « marbre à marbre et froideur à froideur », submergé, possédé qu'il était, je cite encore, par la tête de cette énigmatique Albert qu'il dessinait, mademoiselle impassible fit son intrusion chez lui. Ce fut la vision la plus surnaturelle pour le vicomte. Elle était à moitié nue. Elle sortait de son lit. Elle avait traversé la chambre où son père et sa mère dormaient. Elle l'avait traversé à tâtons, les mains en avant. Fin de citation. Brassard dessine Albertine, la trace, et elle apparaît. Il semble y avoir quelque chose de proprement hallucinatoire dans cette arrivée. De là à parler de la propagation d'un effet spectral, expression d'Héridienne s'il en est, il n'y a qu'un pas. Bien avant l'apparition finale de l'ombre derrière le rideau, Albert semble en tout cas rôder spectralement la nuit. De cette sorte de pulsion scopique à l'œuvre dans le fait de dessiner, on passe à une forme d'angoisse oculaire face à son surgissement. L'infante muette à présent. Au silence terrifiant des lieux s'ajoute le mutisme d'Albert, je cite, sa bouche triste demeurait muette de tout, parlant à peine, tout au plus un monosyllabe arraché d'obsession, un monosyllabe qui ne faisait pas grande lumière sur la nature de cette fille. Horriblement pâle, elle me produisait l'effet d'un épais et dur couvercle de marbre qui brûlait, chauffé par en dessous. Je croyais qu'il arriverait un moment où le marbre se fendrait enfin sous la chaleur brûlante, mais le marbre ne perdit jamais sa rigide densité. Elle me paraissait plus sphinx à elle seule que tous les sphinx dont l'image se multipliait autour de moi dans cet appartement empire. Deux images sont intéressantes ici. Celle du marbre et celle du sphinx ou de la sphinge. Corps statufié et femme énigmatique, littéralement impénétrable dans son mystère. Il y a là une curieuse réminiscence de l'idéal baudelairien. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Curieuse réminiscence, mais pas si curieuse que cela en fait, quand on sait les affinités électives entre les deux écrivains. Les diaboliques ont aussi leur parfum de fleur du mal, et puis le spectre de Pau qui hante aussi bien l'œuvre de Baudelaire que celle de Barbet. Quoi qu'il en soit, la chair dévoilée, le corps possédé, rendu d'une certaine manière à sa totalité corporelle, semble se crypter et signifier moins que son fragment. L'animé dans sa massivité laisse affleurer la présence statique de la pierre. D'un autre côté, l'unité est paradoxalement diffractée à travers l'image du sphinx démultiplié, révélant ainsi une crise interne même à cette unité corporelle. Le monde objectal, et je fais référence ici en fait à une description faite par Brassard, indiquant que des motifs de tête de sphinx décoraient partout sa chambre, le monde objectal donc devient propice à l'inquiétante étrangeté en renvoyant à l'étrangeté intrinsèque à cette femme. Une inquiétante étrangeté déjà contenue dans son arrivée nocturne quasi spectrale et qui culminera avec son corps devenu cadavérique. Je ne vais pas trop m'attarder sur la notion d'inquiétante étrangeté théorisée par Freud dans son essai Das Unheimliche. Mais bon, il me semble là que, enfin, qu'il y a là l'écho freudien, en tout cas, est bien manifeste, ne serait-ce que dans cette image du sphinx. Une remarque, par contre, de Derrida, qui souligne dans Spectre de Marx que Freud, justement, voit dans la spectralité ou l'effet spectral, es spukt, le ça hante, l'exemple le plus spécifique, je cite, une sorte de prototype dans l'expérience de la Unheimlichkeit, donc de l'inquiétante étrangeté. J'en viens donc à la mort d'Albert. Albert était morte. De quoi? Je ne savais. Du canapé sur lequel elle était couchée, un bras tombait sur elle et l'autre pendait à terre. Par moments, le cadavre d'Albert me semblait emplir toute ma chambre. La mort était partout. Fin de citation. Au-delà de cette hallucination, il y a le déni. Et comme on saigne les chevaux, le vicomte prit un poignard et en laboura le bras d'Albert à la saigner. « Je massacrais », annonce-t-il, « ce bras splendide d'où le sang ne coula même pas. » Fin de citation. le sang coagulé, la sensation physique, je cite encore, de cet horrible froid du corps d'Albert, son épouvantable rigidité, glacé, lui faisait conscience toutefois qu'il était en présence de la mort. La chair féminine aperçue, pressentie, désirée et finalement dévoilée et possédée sans être vraiment saisie, se dérobe, frappée qu'elle se trouve par l'étrangeté d'une mort subite. Le corps cadavérique est fort clos, mis plus que jamais hors d'atteinte dans une crypte d'immanence. Le motif partiel se fige en un ensemble marbré, à l'image de ce bras labouré à la saignée et pourtant exsangue. Dans Statue, Michel Serre écrit que la mort explique la statue et souligne leur parenté plastique directe. Le cadavre nous change d'abord en pierre, dit-il. La rigidité mortifère est une sorte de fantasme inquiétant, ou plutôt de cauchemar de pétrification, se rejoignent donc dans la densité du corps de la morte. Mais le corps d'Albert est paradoxal. Statifié bien avant sa mort, elle a le sang tari d'emblée. Sa pâleur est son signe funèbre diffus. L'étrangeté de sa chair est en deçà de l'étrangeté cadavérique. Ce n'était pas une pâleur ordinaire, mais une pâleur profonde comme le marbre. Profonde car le ciseau a beau s'enfoncer dans ce marbre qu'il déchire, il trouve toujours cette mate blancheur. Ainsi, à la voir cette inanimée jeune fille, vous auriez dit que sa pâleur n'était pas seulement à la surface, mais empreinte à l'intérieur des chairs. Cette description que je viens de vous lire, et qui n'est pas celle d'Albert, mais d'un autre personnage féminin aurévilien, Léa, héroïne de son roman éponyme, pourrait bien s'appliquer à la morte du rideau cramoisi. Barbet affectionne en fait ce type d'héroïne diaphane, un peu comme ça, promise à la mort. Procédant de la même logique de diaphanéisation, le corps d'Albert semble donc promis à la dissolution. Mais son souvenir demeurera comme une tache noire. L'expression est dans le texte, qui, toute une vie, allait meurtrir l'âme du vicomte avec le rideau rouge et lumineux à travers, je cite, la mystérieuse fenêtre dans sa mémoire. J'en arrive à l'analyse dans ma troisième partie que j'ai intitulée « La signifiance du corps féminin ». Qu'est-ce qui est révélé ou saisi du corps d'Albert ? La partie et le tout, une collection tout autant étrange que diaphane. La partie et le tout, d'abord. On n'a pas une description réaliste d'Albert dans le sens où on ne voit pas le personnage se construire petit à petit. Je dirais plutôt qu'on le voit disparaître ou se dissoudre. Donc, on ne voit pas le personnage se construire petit à petit comme on est habitué à le voir, par exemple, chez un Balzac. Cette tradition nous a en effet accoutumés à une création achevée, comme si l'auteur devenu démiurge était Dieu le Père. Il nous est en quelque sorte interdit d'imaginer le héros ou même le concevoir sous d'autres traits que ceux sous lesquels ils nous sont présentés. La domination de l'auteur est totale. Désigner un caractère, c'est l'indexer à lui-même et à la perception d'un tiers. C'était donc une fatalité en quelque sorte. Quand on sait par ailleurs que les mots sont les mots de l'auteur et que plus ils sont de l'ordre littéraire, c'est-à-dire appartenant au registre de la littérature, plus ils sont des morceaux choisis, on se rend compte des dimensions et poids absolutistes du modèle. Le dispositif descriptif auquel on a affaire est différent du modèle. Du corps entier d'Albert, on n'en sait rien. On ne peut même pas dire qu'elle est décrite ou qu'il y a description. Ce n'est même pas le romancier narrateur qui la présente. La tâche a été dévolue à l'auteur du récit, celui qu'on fait parler. Il y a là un subterfuge et il y a donc description et description. Et dans celle mise en avant pour présenter Albert, la présentation est surtout représentation. Il ne s'agit pas en l'occurrence de présentation répétée, toujours reprise par autrui, mais de présentation par soi, pour soi, de ce qu'est la représentation. En termes de dispositif, il s'agit de l'intervention de la mémoire, de la médiatisation par elle. Le vicomte se souvient de certaines choses, mais peut-être pas de tout, du tout, autrement dit, de l'ensemble. Et quoi qu'il fasse, c'est lui qui parle. Il ne peut prétendre livrer tout, saisir tout. Après tout, Albert demeure silencieuse. Pas un mot ne peut être mis sur son compte. Pas un mot ne peut la révéler, ni à autrui, ni à elle-même. elle ne peut être que rêvée par le conteur, celui en définitive dont c'est l'histoire rêvée par celui et ceux à qui elle est représentée. Le mystère de la représentation est peut-être là, pourrait-on dire. C'est en tout cas dans ce sens qu'Albert ne peut être présenté ou représenté que par bribes, par fragments. Et s'il en est, ces fragments, de par leur densité, ne procèdent pas de par la mémoire uniquement. Cela va au-delà, jusqu'à la cervelle. Et comme une épine dans la chair, comme une écharde dans la tête, ces fragments font mal, un mal physique, et peut-être au-delà aussi. Alberte n'est-elle pas introduite par le vicomte, comme je cite, « une fille d'une si effrayante précocité dans le mal, une fille si diaboliquement, provocante ». Dans ces fragments, de par une sélection individuée et individuante, la main et le pied s'en détachent. On n'est même pas en droit de se poser la question « pourquoi la main ? Pourquoi le pied ?» La question du pourquoi ne se posant donc pas, demeure la question du comment. Elle fait partie, elle, du schéma de saisie qui nous aide à comprendre l'incompréhensible parfois. La main d'Albert est avancée comme épaisse, on l'a vu, mais au doigt, je cite, long et bien tourné. Ce « mais » est dans le texte. Il oppose, certes, l'épaisseur à ce qui est long et bien tourné. C'est comme s'il y avait main d'un côté et les doigts de l'autre. Cependant, comme on est tenté de penser qu'il n'y a pas de main sans les doigts, force est de constater que cette main, par elle-même, sans les doigts, est une partie individuante du corps. Fantasme ou métonymie ? Les deux peut-être, car après tout, qu'est-ce qui agripperait la cervelle sinon les doigts ? Et puisqu'on est dans la rhétorique du corps, j'ajouterai par rapport aux pieds que bien qu'ils se trouvent généralement en coordination en langue avec la main, les pieds et les mains, la coordination étant une forme de conjonction, l'un pourrait être un substitut de l'autre. On a vu tout à l'heure que dans la séduction de la première avance, c'était le pied qui avait pris la relève de la main. Dans la fonction seulement, peut-être. Mais c'était comme si le pied était la main. Citation, « Je ne voulais pas renoncer si je ne pouvais avoir que cela à la possibilité de retrouver la main ou le pied de cette damnante Albert. » Après tout, on l'a vu, Albert entière n'était-elle pas désignée comme la femme de la main ? Elle pourrait être alors celle du pied. Cela, évidemment, n'enlève rien à l'autonomie de l'un par rapport à l'autre. La main ou le pied, conjonction ou disjonction, séparation, morcellement, ou par rapport au corps en sous-unité, membres réunis et complémentaires. Si je ne pouvais avoir que cela, dit le vicomte, à défaut donc d'avoir le corps tout entier, et dont son cerveau cohabite certainement les deux. Tout cela me montait au cerveau et apparaissait nettement à mon esprit malgré le bouleversement de mes sensations. Autant d'éclats incrustés dans le cerveau de Brassard. À travers la mémoire, embuée du vicomte, surgissent aussi, comme de l'extérieur, mais néanmoins dominante, une nuque, des yeux très froids, impénétrables, des paupières longues, des cheveux bleus à force d'être noirs, un torse insolent, un dos nu, un front néronien, et puis une taille superbe, tout un ensemble de traits inoubliables pour avoir été croqué un soir dans un ensemble fétiche. Le dessin, c'était la tête de cette énigmatique Alberte que je dessinais, c'était le visage de cette diablesse de femme dont j'étais possédée. En définitive, ce corps, ensemble et parti, sorti de la tête du vicomte, bien que crypté, se laisse reconstruire et recomposer tant bien que mal. De toute évidence, ce lieu qu'est le corps ne peut appartenir qu'à son propre dépositaire. Il lui appartient en propre et n'est déchiffrable qu'autant qu'on puisse subsumer la partie sous le tout, dans une sorte de préfiguration du tout dans la partie. La distanciation que mettent les mots en langue dans la saisie de ce que sont les choses y participe certainement, dans un sens ou l'autre, comme dans le choix de la couleur, de l'ombre ou de la lumière. Et je fais donc ma transition pour passer à mon articulation de l'étrangeté à la diaphanéisation. De la façon dont est signifié le corps d'Albert et de la façon dont il est appréhendé, l'opposition intérieure-extérieure semble annulée. En effet, l'air mystérieux et étrange qu'a Albert trouve son corollaire dans une atmosphère sciemment lourde et surnaturelle. À des moments, c'est Albert qui devient surnaturel. Son image de fabuleux sphinx, conjuguée avec la chevelure bleue dont elle est affublée, accentue ce surnaturel qui lui donne une forme de masque. Et l'expression est dans le texte. Masque presque païen, donc, où une sorte d'animalité mythique se joue de tout. Alberte elle-même devient sphinx, plus sphinx à elle seule que tous les sphinx. Cette étrangeté n'est donc en rien diminuée quand Alberte se fait énigmatique et froide, inquiétante aussi dans ce décor et sa pâleur presque cadavérique. Elle annonce la scène macabre qui allait suivre. Massacre d'un bras, d'où le sang ne coula même pas. Cette scène contraste avec cette autre scène où Alberte était étendue sur son canapé de mort, dans une sorte de mise en scène évidente et plutôt romantique, rappelant bon nombre de tableaux. Du canapé sur lequel elle était couchée, l'un de ses bras tombait sur elle et l'autre pendait à terre. Mais c'est déjà autre chose que la scène morbide où ce même bras splendide était massacré. L'étrangeté prend d'autres formes dans d'autres détails du récit. À l'extérieur, une ville assoupie, je cite, « de cet assoupissement qui est l'assoupissement de l'animalité fatiguée ». Et des maisons dans la façade est estompée par la nuit. À l'intérieur, où le drame allait se jouer, un appartement, je cite, dont les meubles semblent des immeubles, et une chambre dont la fraîcheur me faisait l'effet d'un bain froid où a été disposé un grand diable de canapé de maroquin bleu sombre, raconte le vicomte. Ces détails ne vont pas manquer de renvoyer cette image fantasmagorique où l'on a de l'ensemble, que l'on a de l'ensemble des péripéties du récit et des schémas qui lui ont donné corps. Et de même qu'il n'y a pas d'intérieur sans extérieur, ou d'extérieur qui n'excède pas l'intérieur dans l'étrangeté, de même il n'y a pas d'ombre sans lumière. La lumière est présentée dans le récit comme, je cite, « ce qui indique la vie et la pensée ». Elle colore les corps et en les colorant, les expose. Lumière fascinante d'une fenêtre, lumière tamisée par un double rideau, une femme derrière ce rideau, une silhouette à travers, une ombre. Tenez, voyez au rideau, l'ombre svelte d'une taille de femme venait de passer en s'y dessinant. L'ombre d'Alberte, fit le capitaine. Mais Alberte a passé, outrépassé, depuis bien longtemps. C'est juste le souvenir des impressions dernières d'un état des choses disparues. Donc, citation d'une phrase du début de la nouvelle. Au-delà, cela signifierait qu'Alberte est là, à travers toutes les femmes. Le voilage est trompeur. Il dévoile, mais est négation, négatif spectral, de ce qu'il dévoile d'une femme évanescente et irreprésentable. L'ombre devient donc spectrographie couleur sépia, ou trace au sens d'éridien, et image rémanente du corps, fragment aussi dans la mesure où elle est ce qui reste. Dominique Berthet souligne bien dans un numéro de la revue Recherche en esthétique consacré à la notion de fragment cette acception du mot. Le terme renvoie à divers aspects. Il concerne le morceau d'une chose déchirée ou brisée, une partie extraite d'une œuvre, une œuvre réalisée sous forme discontinue, ce qui reste de quelque chose de perdu ou encore un élément subsistant d'un travail inachevé. Fin de citation. Un reste donc, mais un reste qui fait retour et dont le retour même a été programmé dans et par le texte. Le lancinement du corps remémoré devient latence du spectre dans l'incarnat diaphane. Ce que la première vue manque, c'est l'invisible, écrit Derrida dans Spectre de Marx, et ailleurs, indiquant que rien ne pourrait arrêter ou prévenir l'entrée en scène du fantôme, de la chose spectre, sa venue, son passage, son appel. Je cite donc, « Le fantôme est là ». Fût-ce dans l'ouverture de la promesse ou de l'attente, avant sa première apparition. Celle-ci était annoncée. Elle aura été seconde dès la première fois. Fin de citation. Pourquoi Derrida? Parce qu'il est le penseur de la spectralité et parce qu'on retrouve, me semble-t-il, chez Barbet, dans cette nouvelle et ailleurs, cette même logique de fendillement du sensible, une sorte de critique déridienne de la phénoménologie et de fabrique du négatif avant la lettre. Je dirais donc pour conclure que la diaphanéisation dans le monde physique n'est après tout qu'un phénomène par lequel un objet devient sensible à la lumière. L'objet laisse passer la lumière mais ne permet pas de voir au-delà. Ce phénomène se fait phénoménologie dans le monde des pensées. La diaphanéisation comme procédé de saisie du monde synthétise et fige. La saisie se fait saisissement. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, nous enseigne Baudelaire dans À une passante. La dernière fulgurance de l'ombre, participant bien de cette poétique moderne du discontinu et du fragmentaire de l'auteur des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris. Et bien qu'encadrée, comme dans le récit, par l'embrasure d'une fenêtre, là encore donc motif éminemment baudelairien, la saisie ne peut que se faire reflet et jaillissement de lumière intérieure. Il n'y a de vrai que cet intérieur, matière ou sédiment du rêve de Pierre, qui transfigure et où Alberte se trouve comme traversée par la lumière. Les contours de son corps, sa main diaphanéisée à la lueur d'une lampe, nullement translucide, deviennent eux-mêmes des objets de lumière. Ainsi, de l'étrangeté à la diaphanéisation, progresse et se déroule au sens propre, dans sa spectralité, le corps d'Alberte dispersé et réuni à la fois, mais fugace et comme dérobé. Cette technique dessine en fait une sorte d'antériorité où, au-delà du temps et de l'écartèlement auquel il donne lieu, se mêle et se démêle la possession du corps et l'immanence de la crypte. La théâtralisation à laquelle a recours l'auteur de la nouvelle fait partie de cette technique. Elle intègre le décor intérieur et l'extérieur ambiant. Je voudrais aussi souligner, en terminant, que l'ambivalence, voire l'ambiguïté, relève de cette même technique. Car le corps d'Albert, dans cette tension entre l'association et la dissociation, se donne à voir hautement ambigu, au point qu'en prenant la main, par exemple, on voudrait prendre le pied aussi. Finalement, en tentant de toucher le corps, on aimerait non pas toucher l'âme, mais à l'image de Brassard, percer à jour l'âme du corps, son énigme. Corps utopique, en définitive, comme dirait Foucault, que je cite, « corps qui a ses ressources propres de fantastique. Il en possède, lui aussi, des lieux sans lieu et des lieux plus profonds, plus obstinés encore que l'âme, que le tombeau. Il a ses séjours obscurs, il a ses plages lumineuses. » Fin de citation. Serait-ce pousser les choses un peu trop loin que de voir cette ambivalence ou cette dualité dans le clair-obscur aussi ? La clarté dans la clarté blanche de la lumière et l'obscur dans la teinte mate ou sombre de la couleur rouge-pourpre. Un manteau cramoisi comme jeté sur l'univers de la nouvelle, au-delà du rideau cramoisi, double d'une fenêtre sans persienne. C'est comme si l'auteur nous proposait au final, au-delà du bien et du mal, une morale un peu nietzschéenne de l'ambiguïté. Une morale donc, une ambiguïté donc qu'on pourrait voir illustrée, in fine, dans une impossible clôture du sens. Et après, demande le narrateur. Il n'y a pas d'après, répond Brassard, la nouvelle devenant ainsi une sorte de fragment inachevé et sa diabolique, Alberte, la fleur du mal, devenant l'absente de tout bouquet qui annonce des fragmentations esthétiques à venir.